Chapitre 6. Ce lundi après-midi, après avoir quitté Madame Tillier à la Villa Louise, Preux s'était rendu à l'agence de Lambersart de la Voie du Nord, qui n'était qu'à deux pas, pour rencontrer Claire Louvier. Celle-ci était en reportage, elle n'en reviendrait qu'en fin d'après-midi. Preux dit qu'il repasserait après 18 h et retourna à la PJ. De son côté, Mona n'avait pas à rentrer chez elle pour faire manger les enfants, car son mari était là. Elle put donc accompagner Boulanger, Le Mailleux et Preux dans un petit restaurant de la place Riour où ils avaient leurs habitudes. Vu la chaleur, ils s'offrirent en guise d'apéritif une bière pression, puis ils profitèrent du repas pour faire le point. Boulanger et Le Mailleux avaient passé une matinée fastidieuse. Aidés par d'autres policiers, ils avaient interrogé une bonne trentaine d'invités de la veille. Ceux-ci avaient fourni les mêmes réponses décourageantes. Non. Ils ne connaissaient pas personnellement la victime. Non, ils n'avaient jamais entendu parler de Claude Gauvin. Non, ils n'avaient rien remarqué de spécial. Quelques-uns mentionnèrent quand même l'altercation entre Barbara et un homme. Au moins avaient-ils tous un alibi pour leur présumé du crime. Ils se trouvaient dans le jardin, dans tel groupe de discussion, et un tel pouvaient l'attester. Une fois les recoupements effectués, cela faisait toujours autant de suspects en moins. La perspective de devoir poursuivre ces auditions massives l'après-midi et peut-être une partie du lendemain n'était guère excitante. En outre, Boulanger n'avait reçu pour le moment aucune nouvelle, que ce soit à propos de l'autopsie ou des prélèvements effectués. À leur tour, Preux et Monin rendirent compte de la visite qu'ils avaient effectuée à la Villa Louise et à l'imprimerie. S'ils n'avaient pas le nom du coupable, ils revenaient néanmoins avec quelques renseignements intéressants. Pour Preux, Rebecca Tillier était hors de cause puisque, à la suite de son malaise, elle était restée dans la chambre veillée constamment par une de ses belles-sœurs. Celle-ci, convoquée en matinée au SRPJ, l'avait confirmée. Monin, par contre, souligna que Georgette Lecœur et Gentillier n'avaient pas de véritable alibi pour le moment du meurtre. Elle ramenait aussi de son entretien avec Tillier deux précieuses informations. D'une part, il y avait une trace de l'existence de Claude Gauvin à travers le coup de téléphone bizarre qu'avait reçu Barbara et que Tillier situait le 24 ou 25 septembre. D'autre part, elle connaissait l'identité de l'homme avec qui Barbara s'était disputée peu avant d'être assassinée, un certain Georges Callot. De retour au SRPJ, ils vérifièrent la liste des convocations. Ce dernier n'avait pas encore été entendu. Sa déposition était prévue à 15 h 30. Boulanger répartit ainsi les tâches. Cette fois, c'était Preux et Monin qui restaient ici. Comme l'interrogatoire de Callot pouvait s'avérer important, ils le mèneraient conjointement. Le Mailleux, pour sa part, irait questionner de nouveau Mélanie Fougueil à son magasin. Certes, elle avait déjà répondu aux questions la veille, mais elle était si émue qu'on n'avait pu obtenir d'elle qu'un témoignage partiel. Après tout, c'est elle qui avait découvert en premier le corps, ce qui en faisait un témoin, voire un suspect privilégié. Quant à lui, Boulanger, il s'attacherait à établir la réalité du coup de fil envoyé à la Villa Gaston et à en connaître la provenance, ce qui pourrait permettre d'en identifier l'auteur. Ensuite, par ses relations, il se renseignerait sur l'imprimerie Tillier. Peut-être Barbara, pendant son bref passage, s'y était-elle fait des ennemis. Il n'était pas sûr que la clé de l'énigme se situait là, mais en l'absence de pistes plus sérieuses, il allait chercher dans cette direction. Alors qu'ils allaient se séparer, le téléphone sonna. C'était le commandant Fromont de la police scientifique. Il avait quelque chose qui pouvait intéresser Boulanger. Dans une poche minuscule de la robe de la victime, située près de la ceinture et distincte des deux grandes poches sur le côté, ce qui expliquait que ces hommes ne l'avaient pas vu tout de suite, il avait trouvé un anneau en or qui portait une inscription. À Barbara, le 10-07-2001. Il y avait des empreintes dessus, mais elles appartenaient uniquement à la victime. Quant aux analyses, on venait juste de les commencer. Il ne pouvait donc encore rien dire à ce propos. Bien sûr, il communiquerait dès que possible les résultats à Boulanger. Mais celui-ci devait bien comprendre qu'il n'était pas le seul demandeur et qu'on avait beau appartenir à la police scientifique, il fallait bien que l'on mange et que l'on dorme de temps en temps, hein ? Fromont avait toujours eu l'humour épais. Boulanger raccrocha et mit les autres au courant. Il pressentait qu'il tenait quelque chose d'important. Monin et Le Mailleux partageaient son avis. Preux, quant à lui, était plus réservé, considérant que cela n'avait peut-être aucun rapport avec le meurtre. Il fut néanmoins d'accord avec les autres sur le fait qu'il fallait retrouver le donateur. D'ailleurs, puisqu'il voyait Georges Callot tout à l'heure, il l'interrogerait à ce propos. Et si ce n'est pas lui, soupira Boulanger, il ne nous restera plus qu'à entendre à nouveau les tiliers. Georges Callot se présenta au SRPJ à 16 h. Il avait une demi-heure de retard. Preux, qui guettait son arrivée depuis 15 h 15, commençait à croire qu'il ne viendrait pas. Il l'introduisit dans son bureau et alla chercher Monin, car jusque-là, ils interrogeaient séparément. Quand elle entra dans la pièce, elle fut surprise de la décontraction du bonhomme. Il s'était confortablement calé dans le fauteuil visiteur, le pied droit posé négligemment sur le genou gauche, les mains croisées sous le menton, la tête légèrement penchée et l'œil mi-clos. Exactement comme un recruteur qui attend un candidat à l'embauche, pensa Monin, qui l'examina plus attentivement. Âgé d'environ 35 ans, les cheveux bruns plantés drus, le teint hâlé, la chemise blanche largement ouverte sur un poitrail velu laissant apparaître une grosse chaîne dorée, les lunettes de soleil relevées sur le front, il avait tout du Latin lover du magazine ou du mafioso de cinéma, dans son costume de coupe sombre. Monin le jugea beau garçon, malgré des traits un peu mous. Preux, quant à lui, détesta tout de suite le sourire fat qu'il affichait en permanence. Après les avoir présentés, elle-même et Preux, Monin posa la première question. « Monsieur Callot, connaissiez-vous les victimes ?» Il resta un moment silencieux, comme s'il hésitait sur la réponse à faire. « Oui, bien sûr, dit-il. C'était une amie très chère. « Qu'entendez-vous par là, monsieur Callot ?»« Cela signifie-t-il qu'elle était votre maîtresse ?» ajouta sèchement Preux, que l'air suffisant du bonhomme agacé. Le sourire de Georges Callot se figea, tandis qu'il fusillait Preux du regard. Cela ne dura que quelques secondes. Après quoi, il reprit son expression narquoise. « Votre question a un tour déplaisant, lieutenant, mais je vais y répondre quand même en citant le poète. J'étais son amant, elle était ma maîtresse. Je l'aimais ardemment, cette belle traîtresse. « Depuis quand la connaissiez-vous, monsieur Callot ?» reprit Monin d'une voix calme, sans paraître avoir remarqué le ton sarcastique de son interlocuteur. « Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans dans une discothèque. Barbara aimait beaucoup sortir, comme moi. La suite, vous la devinez, dit-il en regardant Preux d'un air moqueur. Lui avez-vous offert récemment un anneau en or ? Il sembla sincèrement surpris. Un anneau en or ? Non ! Mais pourquoi cette question ? Quelqu'un lui aurait donné un anneau en or ? Monsieur Callot, c'est nous qui posons les questions. Contentez-vous d'y répondre, dit Preux avec un sourire suave. Monin, qui jouait le rôle de la gentille quand elle l'interrogeait avec Preux, reprit la parole. « Monsieur Callot, est-ce mademoiselle Roussel qui vous avait invité à la réception d'hier ?»« Oui, » dit-il simplement, tout en gratifiant Preux d'un regard haineux. « Plusieurs témoins ont affirmé vous avoir vu tous les deux vous disputer, » poursuivit-elle d'une voix neutre. Il balaya l'air du bras. « Une dispute ? Le grand mot. Nous avons simplement eu quelques propos un peu vifs. À quel sujet ?» Nous étions convenus qu'elle vienne samedi matin à l'agence faire du secrétariat. Or, je l'ai attendue en vain. Je lui en ai fait la remarque, elle s'est vexée. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Elle travaillait pour vous? Je l'employais épisodiquement dans mon agence de publicité, plus pour lui faire plaisir que par réel besoin. J'ai déjà une secrétaire à plein temps. En outre, Barbara n'était pas vraiment fiable. Preux, que la suffisance de Callot exaspérait, demanda sèchement. « Où étiez-vous à 15 h 45 quand mademoiselle Fougaille a crié après avoir découvert le corps ?»« Je n'étais plus là. Après notre petite explication, Barbara s'est éloignée. Quant à moi, je dois avouer que son attitude m'avait un peu énervé. Et puis, cette assemblée de vieux tromblons commençait à me courir sérieusement. J'ai donc décidé de partir et, comme Barbara était venue me prendre en voiture, je suis rentré à Lille à pied. À 15 h 45, je me trouvais entre Lille et Lambersart. Je traversais peut-être la Dole, dit-il en adressant à Preux un sourire moqueur. « Quelqu'un peut-il confirmer vos propos, monsieur Callot ?» demanda Monin. Cette fois, l'ironie se fit plus lourde. « Écoutez, je n'ai pas pensé à prévenir l'honorable assistance de mon départ, ni à demander à quelqu'un de m'accompagner pour me servir de garant parce qu'un assassinat allait se produire. « Bref, monsieur Callot, nous n'avons que votre parole, » dit Preux sur le même ton. « Elle en vaut bien d'autres et il faudra vous en contenter. » « Un témoin nous a dit que vous ne portiez pas de badge. Est-ce exact ?» demanda Monin, qui avait en tête une des remarques faites par Gentilier. Bon Dieu, les espions pullulaient! Il vit que sa boutade tombait à plat, parut un instant déconcerté, finit par dire. C'est exact, je n'avais pas de badge. En arrivant, j'ai trouvé cette idée ridicule et je suis passé devant la table sans en prendre. Le nom de Claude Gauvin vous dit-il quelque chose? Il ne répondit pas tout de suite. Qui? Claude Gauvin? Absolument rien. Monin, qui le sentait sur la défensive, jugea utile de le remettre en confiance. À votre avis, monsieur Callot, qui pourrait avoir fait le coup? Pour la première fois, elle se départit de son air arrogant. Écoutez, Barbara était une chic fille, trop rêveuse, immature, mais une chic fille. Moi qui ai l'expérience des femmes, j'ai été sidéré quand je l'ai vue pour la première fois. Elle avait un physique de mannequin, dit-il d'un ton rêveur. Soudain, il tourna la tête vers Preux et sa voix prit un ton railleur. Sa sœur, qui lui ressemble fort, n'est pas mal non plus, mais la mère Tilly est casée, tant pis pour moi. Son naturel provocateur avait repris le dessus. Monin n'estima pas intéressant de prolonger l'interrogatoire plus avant. Pour le moment, il convenait de décortiquer son alibi. Il serait toujours temps de l'interroger à nouveau selon les besoins de l'enquête. C'est pourquoi, après avoir appelé à Georges Callot qu'il devait rester à la disposition de la justice, elle lui rendit sa liberté. Il sortit en leur souhaitant bonne continuation d'une voix mielleuse. De son côté, le brigadier Lemayeux s'était rendu à pied du SRPJ au centre commercial Euralil, où se trouvait le commerce que gérait Mélanie Fougaille. Lemayeux avait 32 ans. Né à Avion, dans le bassin minier, et élevé au sein d'une famille qui comptait nombre de gendarmes, à commencer par son père et son frère aîné, il avait créé le scandale en déclarant vouloir devenir policier et en passant le concours de gardien de la paix. Par la suite, les choses s'étaient arrangées et les repas de fête chez les Lemayeux donnaient lieu à de chaudes discussions sur les mérites comparés des deux corps de métier. Fervent supporter du Racing Club de Lens, grand amateur de frites et de Jeanlin, Lemayeux aimait le Nord et ses belles filles blondes. Toutefois, il avait le chic pour s'engager dans des histoires de cœur compliquées dont il régalait tout le SRPJ le lundi matin. Ses aventures mémorables et sa bonne humeur permanente le rendaient très populaire dans la maison. Mais Boulanger, Monin et Preux l'appréciaient avant tout pour ses qualités de flic, sens du contact, ténacité et patience. Il dut errer un moment dans le labyrinthe des galeries du centre commercial avant de trouver la boutique de Mélanie Fougaille. Il s'agissait d'un magasin de bijoux fantaisie, comme on en voit fleurir dans bien des villes. En ce début d'après-midi, il n'y avait que quelques clients qui déambulaient parmi les présentoirs. Lemayeux se présenta à Mélanie qu'il connaissait de vue depuis la veille, car elle se trouvait encore à la Villa Louise quand il y était arrivé avec Boulanger. Après s'être entretenue un instant à voix basse avec l'autre vendeuse, elle lui fit signe de la suivre dans une minuscule arrière-boutique. C'était une brune un peu grasse, d'une bonne trentaine d'années, qui essayait de dissimuler son excédent de poids sous une tunique ample. Elle avait un visage agréable, quoique l'esquisse d'un double menton laissât présager une future mama. Lemayeux, qui souffrait lui aussi d'un début d'embonpoint et aimait les femmes bien en chair, éprouva une sympathie immédiate pour la jeune femme. Cette dernière se révéla prolixe. Dès la première question de Lemayeux, elle se mit à raconter sa vie. Elle était montée il y a 3 ans d'Aix-en-Provence à Lille pour les beaux yeux d'un homme qui s'était présenté comme propriétaire de plusieurs salons de coiffure et lui avait fait miroiter qu'elle deviendrait la gérante du plus prestigieux d'entre eux. En réalité, l'individu ne possédait qu'un bar louche dont il voulait faire de Mélanie une des hôtesses. Outrée, elle l'avait laissé tomber, puis, après plusieurs emplois de vendeuse, elle avait déniché il y avait 9 mois ce poste de gérante. Entre-temps, elle avait rencontré Georges Callot, dont elle était devenue la maîtresse, avant qu'il ne lui préfère Barbara. Paradoxalement, alors que jusque-là, Lemayeux avait ressenti dans sa façon de présenter les choses beaucoup d'aigreur et de ressentiment, elle s'adoucit quand elle parla de la morte. Loin de lui en vouloir de lui avoir volé Callot, elle avait été touchée par l'ingénuité et la fragilité de Barbara. Les deux jeunes femmes avaient sympathisé, puis étaient devenues très proches. La journée, Barbara venait traîner dans la boutique de Mélanie et le soir, elles sortaient ensemble. Curieusement, cette complicité s'était développée aux dépens de Callot, dont elles évoquaient les défauts avec des fous rires interminables. Au demeurant, Mélanie parla à Lemayeux de ce dernier en termes durs, le traitant de fainéant, de don juan, de pacotille et de profiteur. N'insistait-il pas depuis des semaines afin que Barbara intervienne auprès de Gentilier pour lui obtenir le marché publicitaire de l'imprimerie? Comme elle s'y refusait, il lui avait fait des scènes, alternant prières et menaces, mettant en avant la bonté qu'il avait eue de l'employer comme secrétaire, disant que sans lui elle ne serait rien. Pour ce qui est de l'homicide lui-même, elle réitéra ses déclarations de la veille, la discussion sur les vacances, l'alligator géant que Barbara avait approché, le scepticisme et les moqueries de certains, le départ d'une Barbara vexée vers la maison pour y prendre la pochette photo, son inquiétude à elle, Mélanie, en ne la voyant pas revenir au bout d'un moment, son entrée dans le hall par l'arrière, la vue de la porte du salon entr'ouverte, la découverte du corps, les cris. Elle racontait la scène avec animation. Plusieurs fois, sa voix se mit à trembler, mais elle ne pleura pas. Le mailleux se demandait si elle se rendait bien compte qu'en tant que personne ayant découvert le corps, elle était la première suspecte. En tout cas, si c'était elle la meurtrière, elle était excellente comédienne. Le mailleux était tenté de la croire innocente, mais il en avait vu des criminels à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Et puis elle avait un mobile. Quoi qu'elle en dise, elle pouvait en vouloir à Barbara de lui avoir pris son amant. Sur la question du badge au nom de Claude Gauvin, elle maintint ses déclarations de la veille, à savoir qu'elle ne l'avait pas vu, mais qu'elle s'était à peine avancée dans la pièce. Enfin, le mailleux évoqua l'anneau en or retrouvé sur Barbara. Elle parut extrêmement surprise et un peu vexée. Barbara, qui ne lui cachait pourtant pas grand-chose, ne le lui avait jamais montré. Elle put quand même donner un renseignement à le mailleux. La date du 10 juillet inscrite sur la tranche interne correspondait à l'anniversaire de Barbara. Du reste, elle se rappelait qu'un repas avait été organisé à la Villa Louise pour cette occasion et que les Tilliers avaient offert comme cadeau une Clio. En la quittant, le mailleux lui demanda ses projets. Que voulez-vous que je fasse ici désormais? Dit-elle d'un ton amer. Les hommes, j'en ai fait le tour. Je viens de rencontrer deux fameux spécimens. Celui qui m'a attiré ici est le calot. Ah, ils sont bien représentatifs de l'espèce. Hâbleurs et lâches, oui. De ce côté-là, j'ai donné, ajouta-t-elle en fixant le mailleux d'un air provocateur. Je vais retourner à Aix. Oh, ce n'est pas que les hommes soient mieux là-bas qu'ici, au contraire. Ils sont encore plus fanfarons, plus machos. Enfin, je serai au pays. Elle resta un moment silencieuse, puis ajouta. De toute façon, Barbara morte, plus rien ni personne ne me retient ici. Mais bien sûr, je connais la loi. Je resterai à votre disposition jusqu'à la fin de l'enquête. Elle prononça ces dernières phrases en lançant à le mailleux un long regard qui le poursuivit tout le trajet du retour.